VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 13 juillet 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia pour commencer les titres. Au Kenya, 6 personnes tuées hier dans des manifestations antigouvernementales interdites. En Ouganda, le président iranien Ibrahim Raisi critique l'Occident qui, selon lui, promeut l'homosexualité. Le médiateur Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, appelle à une résolution pacifique du conflit en RDC à l'issue d'une réunion à Goma. Les groupes djihadistes multiplient les abus dans le nord-est du Mali, avertit Human Rights Watch. Au Sénégal, au moins 6 morts sur la route migratoire dans le chavirement d'une pirogue au large de Saint-Louis, dans le nord du pays. Arrivé en Finlande du président américain Joe Biden, après le sommet de l'OTAN à Vilnius, le G7 promet à l'Ukraine un soutien militaire durable en attendant son adhésion à l'Alliance. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Kenya, au moins 6 personnes ont été tuées hier dans plusieurs villes lors de manifestations interdites par les autorités contre de nouvelles taxes. Les autorités ont durci le ton et menacent de mettre fin à ce qu'elles appellent la culture de l'impunité dans le pays. Michel Joseph.
Des vies ont été perdues, des dizaines d'agents de la force publique et des civils ont été grièvement blessés et des pertes inimaginables pour l'économie ont été occasionnées, a déclaré dans un communiqué le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, dénonçant la violence généralisée et les pillages. Une source policière qui a requis l'anonymat a fait état de 3 morts à Mlanglongo, près de Nairobi, 2 autres à Kitengela et 1 à Emali, au sud de la capitale. Le chef de la police nationale avait interdit mardi les rassemblements au motif que l'opposition n'avait pas prévenu les autorités. Déjà vendredi dernier, 6 personnes ont été tuées pendant ces manifestations à l'appel de Raila Odinga, le vétéran de l'opposition, pour dénoncer la vie chère et de nouvelles taxes. Début juillet, le président William Ruto a promulgué une loi de finances qui prévoit une hausse de la TVA sur les carburants de 8 à 16% et un prélèvement sur les salaires pour financer un programme de logement à bas prix.
En visite en Ouganda, le président iranien Ibrahim Raisi a critiqué hier l'Occident qui, selon lui, veut mettre fin à l'espèce humaine en faisant la promotion de l'homosexualité, et ce 2 mois après la promulgation par Kampala d'une loi contre l'homosexualité considérée comme l'une des plus répressives au monde. Rosine Munezero.
L'Occident essaie aujourd'hui de promouvoir l'idée de l'homosexualité et en promouvant l'homosexualité, ils essaient de mettre fin à l'espèce humaine, a déclaré le président Ibrahim Raisi à l'issue d'un entretien avec son homologue Yoweri Museveni. Le président Museveni a promulgué en mai dernier un texte prévoyant de lourdes peines pour les homosexuels et ceux qui font la promotion de l'homosexualité passible d'une peine de mort, qui n'est toutefois plus appliquée depuis des années en Ouganda. La promulgation de cette loi a suscité une vague d'indignation de nombreux pays occidentaux. Le président iranien a également exprimé son soutien à un projet de construction d'une raffinerie de pétrole que l'Ouganda entend construire après avoir exploité des gisements dans le lac Albert. Le projet prévoit aussi la construction d'un oléoduc long de 1443 km. Monsieur Raisi, qui s'est entretenu hier matin à Nairobi avec son homologue kényan William Ruto, est arrivé dans l'après-midi à Entebbe en Ouganda. Il doit se rendre aujourd'hui à Harare au Zimbabwe pour rencontrer le président Emmerson Mnangagwa.
L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur des pourparlers de paix dans l'est de la RD Congo, a tenu hier une réunion à Goma au cœur de la zone de conflit avec les autorités congolaises, des représentants des Nations Unies et des diplomates occidentaux. À l'issue de la réunion, il a réitéré son appel à une résolution pacifique de la crise. « Nous ne sommes pas là pour ouvrir de nouvelles négociations », a-t-il déclaré à la presse. les commandants du M23, rébellion majoritairement tutsi qui s'est emparée depuis l'année dernière de vastes pans de territoire du Nord Kivu, réclament des pourparlers avec le gouvernement comme préalable à leur reddition. Kinshasa, pour sa part, refuse tout dialogue avec le M23, demandant le désarmement et le cantonnement de ses troupes sans condition et le retrait de l'armée rwandaise, dont la présence en RDC est démentie par Kigali. Un Rwandais vivant en France a été inculpé début juillet à Paris pour crime contre l'humanité et placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir participé au génocide de 1994. Lionel Gahima.
Madjaliwa Safari, 58 ans, conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, selon son avocat, Maître Abed Benjador. Monsieur Safari vivait près de Tours, dans le centre de la France. Il n'a pas la nationalité française. Il a été inculpé pour génocide et crime contre l'humanité, selon la source judiciaire, et a été placé en détention provisoire vendredi. Il est mis en examen pour des faits commis entre le 6 avril et juillet 1994 dans les anciennes préfectures de Gitarama et Butare dans le sud du Rwanda. Il aurait joué un rôle particulier à un barrage routier appelé chez Premier. Certains témoins décrivant sa participation active aux arrestations et exécutions des civils à ce barrage. Le Rwanda a émis en 2017 un mandat d'arrêt contre lui et une information judiciaire a été ouverte à Paris le 19 novembre 2019. La justice française a déjà condamné plusieurs ressortissants rwandais, dont l'ancien gendarme Philippe Hategekimana, 66 ans, naturalisé français sous le nom de Philippe Manier, condamné le 28 juin à Paris à la prison à perpétuité. Il a fait appel de sa condamnation.
Les groupes djihadistes ont multiplié depuis janvier 2023 meurtres, viols et pillages à grande échelle sur les civils dans le nord-est du Mali, forçant des milliers de personnes à fuir ces régions, a indiqué ce jeudi dans un rapport Human Rights Watch. La sécurité s'est fortement détériorée en raison d'affrontements entre deux groupes armés islamistes, l'État islamique dans le Grand Sahara et le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans lié à Al-Qaïda, qui cherche à contrôler les voies d'approvisionnement et à accroître leur influence, a expliqué l'Organisation de défense des droits humains. Des groupes armés islamistes attaquent brutalement les civils et contribue à alimenter une urgence humanitaire de grande ampleur, a déclaré Ilaria Allegrossi de Human Rights Watch. L'ONG indique par ailleurs avoir documenté de graves abus commis par les forces de sécurité maliennes et par des forces présumées de la société de sécurité privée russe Wagner aux agissements décriés dans différents pays. Au moins 6 morts et 4 rescapés suite au chavirement d'une pirogue hier à Saint-Louis dans le nord du Sénégal sur la route migratoire reliant le pays à l'archipel espagnol des îles Canaries, ont indiqué les sapeurs-pompiers et un responsable local. Selon les médias locaux, il s'agit d'une embarcation de migrants et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd car ces pirogues sont souvent bondées et peuvent contenir des dizaines de personnes. Les recherches se poursuivent. Le bateau venait du sud du Sénégal, mais je ne peux ni confirmer ni infirmer que ce sont des migrants, a précisé le responsable local. Selon l'ONG Caminando Fronteras, qui tient ces informations des appels de migrants ou de leurs proches, 3 autres embarcations parties du Sénégal et transportant au total plus de 300 migrants sont portées disparues.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En marge du sommet de l'OTAN à Vilnius hier, les puissances du G7 se sont engagées à apporter un soutien militaire sur le long terme à l'Ukraine, une décision saluée par le président Volodymyr Zelensky, pour lequel cela ne saurait toutefois remplacer une future adhésion de son pays à l'Alliance Atlantique, Nathalie Barge.
Les membres du G7 ont présenté un plan pour la sécurité de l'Ukraine visant à contrer l'offensive russe et à dissuader Moscou de toute future attaque armée contre son voisin. 8 autres pays se sont joints à l'initiative, à savoir l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, l'Islande, la Norvège, le Danemark, la Pologne et la République tchèque. Nous devons nous assurer que, quand la guerre se terminera, il y ait des mécanismes crédibles en place pour la sécurité de l'Ukraine, afin que l'histoire ne se répète pas, a fait valoir le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Les dirigeants se sont engagés à raccourcir le processus que Kiev devait suivre pour rejoindre l'OTAN. Nous serons en mesure d'adresser à l'Ukraine une invitation à rejoindre l'Alliance lorsque les alliés l'auront décidé et que les conditions seront réunies, prévoit le communiqué final. Pour le chancelier allemand Olaf Scholz, ces conditions portent principalement sur les questions de démocratie et d'état de droit. En somme, le communiqué final du sommet de Vilnius reste aligné à l'engagement de 2008 sur une future intégration de l'Ukraine. L'annonce du plan de sécurité pour l'Ukraine, qui a provoqué la colère de Moscou, a été qualifiée de victoire importante par Volodymyr Zelensky. Vous êtes à nos côtés depuis les premiers jours de cette guerre. Nous y sommes très sensibles, a lancé le président ukrainien lors d'une rencontre avec son homologue américain Joe Biden. Dans un discours à l'université de Vilnius, Joe Biden a souligné que le président russe Vladimir Poutine a échoué dans sa tentative de briser l'Alliance Atlantique. « Nous allons aider les Ukrainiens à bâtir de fortes capacités défensives », a-t-il déclaré. Joe Biden s'est ensuite rendu en Finlande, qui a fait en avril son entrée dans l'OTAN, dernière étape de sa tournée européenne entamée à Londres.
La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
La compagnie aérienne Royal Air Maroc veut quadrupler sa flotte d'ici la fin de la prochaine décennie afin d'accompagner le développement du secteur touristique, a annoncé un communiqué des services du chef du gouvernement marocain. Le premier ministre Aziz Akhannouche et le PDG de la Royal Air Maroc ont signé mardi à Rabat un contrat programme de modernisation afin de répondre au plan de développement du tourisme qui vise à attirer 65 millions de visiteurs à l'horizon 2037. Cela représente environ 6 fois plus de visiteurs qu'aujourd'hui. En Éthiopie, le taux d'inflation est tombé à 32,5% en juin, soit un troisième mois consécutif de baisse, a annoncé mercredi l'ESS, le service éthiopien des statistiques. Les taux d'inflation pour mai et avril étaient respectivement de 33 et 33,5%. L'ESS a attribué cette hausse à l'augmentation des prix des biens durables, des bijoux et des produits électroniques. La Banque centrale de Namibie a annoncé mercredi qu'elle assouplissait davantage les restrictions sur les prêts immobiliers afin de revitaliser les secteurs du logement et de la construction. La Banque namibienne a noté que le secteur de la construction avait connu de longues périodes de croissance déprimée, aggravées par la réduction de l'extension du crédit au marché de l'immobilier.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les demi-finales de l'Afro-CAN se jouent ce jeudi.
Oui, le Kenya fera face au Maroc qui a battu hier le Cameroun 78-50. À suivre aussi le choc entre l'équipe championne en titre, la RD Congo, et le Nigeria vainqueur hier du Gabon 71-55. Le Rwanda aura fort à faire devant l'Angola, match intéressant a priori entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire qui a défait le Mali 72-58.
Tennis, Jabeur joue la demi-finale du tournoi de Wimbledon ce jeudi.
Face à la Bélarusse, Arina Zabalenka, la Tunisienne de 28 ans, 6e mondiale, va tenter de se qualifier de nouveau pour la finale sur le gazon londonien. Si elle y parvient, elle deviendrait la première joueuse à enchaîner 2 finales à Wimbledon depuis Serena Williams en 2018 et 2019. Hier, en quart de finale, Ons Jabeur a pris sa revanche de la dernière finale à Wimbledon. Elle a battu la Kazakh Elena Rybakina, 3e joueuse mondiale, 6-7. 6-4, 6-1. Si je pouvais échanger ce match avec celui de l'an dernier, a commenté Jabeur, qui avait perdu cette finale 2022 après avoir remporté le premier set. L'autre demi-finale dame va opposer l'Ukrainienne Elina Svitolina à la Tchèque Marketa Vondrousova.
Football, Nwankwo Kanu devient président du club champion du Nigeria.
L'ancien attaquant d'Arsenal et international nigérien a été nommé président du club d'Enyimba. champion en titre. L'annonce a été faite par le gouverneur de la région d'Abia, Alex Oti, propriétaire du club. Nwanko Kanu succède à Félix Anyansi Agou aux manettes pendant 24 ans, sous le règne duquel le club a remporté nombre de trophées, dont deux Ligues des champions, 2003 et 2004. Finidi George, ancien joueur de l'Ajax et du Betis et coéquipier de Kanu chez les Super Eagles, est l'actuel entraîneur de Nimba, qui a conquis en juin un 9e titre record des champions du Nigeria.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra vient de remettre le projet de nouvelle constitution qui sera soumis à un référendum le 30 juillet prochain à l'organe chargé de diffuser le texte. Davantage avec Jacques Aristide.
Cette nouvelle constitution pourrait permettre au chef de l'État centrafricain de briguer un troisième mandat, ce que lui interdit l'actuelle loi fondamentale en vigueur dans ce pays, toujours en proie à une rébellion après des années de guerre civile.
Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine.
J'ai convoqué le 30 mai 2023 le corps électoral de la République centrafricaine en vue de se prononcer par référendum sur le projet de la nouvelle constitution. La campagne référendaire débutera, vous le savez, le 15 juillet 2023 et prendra fin le 28 juillet de la même année.
Faustin Archange Touadéra a été élu en 2016, puis réélu en 2020, alors que moins d'un électeur sur trois a eu la possibilité d'aller aux urnes pour des raisons de sécurité. Il est accusé par l'opposition et la rébellion de vouloir, en se faisant réélire en 2025, demeurer président à vie du deuxième pays le moins développé du monde, d'après l'ONU.
Gervé Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile de Centrafrique.
La seule chose qui les a gênés dans la constitution du 30 mars 2016, c'est l'article 153 qui exclut expressément de la révision le nombre et la durée du mandat du président de la République, la forme républicaine et laïque du pays, les incompatibilités aux fonctions du chef d'État, ainsi que le contenu du présent article.
Pour le gouvernement, toutefois, il n'y aura pas de troisième mandat, mais les compteurs seront remis à zéro. Un ministre conseiller précise que tout le monde pourra ainsi être un candidat, y compris le président Touadéra, s'il le souhaite.
Aristide Reboaz, ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports.
Dans la Constitution, il y a deux éléments qui influent. La Constitution, il y a l'histoire d'un peuple et il y a la géographie d'un peuple. Et pourtant, nous avons eu toujours des constitutions qui nous ont toujours été imposées par les contingences historiques. C'est-à-dire, ça vient de l'extérieur, ça nous impose, y compris les régimes.
L'ONU reproche à Bangui, au diapason des capitales occidentales et des ONG, d'avoir mis la RCA sous la coupe des mercenaires russes de Wagner pour combattre les rebelles.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Au Nigeria, sitôt devenu président du pays, Bola Ahmed Tinubu a supprimé la subvention sur les carburants dont les prix ont immédiatement augmenté en flèche, ce qui a obligé les Nigérians, très habitués aux coupures de courant, à s'adapter pour faire face. Un reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Philippe Obin est le directeur exécutif de Potec Limited, l'entreprise qui importe et convertit les générateurs à essence pour qu'ils fonctionnent au gaz naturel de cuisine. La conversion consiste à remplacer le carburateur de carburant par un carburateur hybride qui permet à l'appareil de fonctionner à la fois à l'essence et au gaz.
Basically, what has changed is this. En gros, ce qui a changé, c'est ceci. Votre carburateur habituel est exactement comme ça. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons un carburateur avancé qui a une chambre à gaz. Donc, avec cette chambre à gaz, au moment où vous avez terminé l'installation, vous appuyez ici une ou deux fois pour la première fois pour conduire le gaz du cylindre vers les chambres. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Puis, vous démarrez votre générateur.
Total Support Energy Group est installé à Port Harcourt, dans le sud du Nigeria. Une filiale marketing et service de Total, une multinationale de l'énergie, impliquée également dans l'exploitation du gaz naturel et de son transport aux clients. Ifoma Okonko, ingénieur en chef de Total Support Energy Group.
Nous avons des camions à gaz dans lesquels nous transportons ce gaz naturel comprimé pour nos clients. Ainsi, avec la présence d'entreprises comme la nôtre, nous prenons facilement du gaz de notre station mère où nous avions comprimé ce gaz que nous avons obtenu des entreprises comme Shell. Tout ce que nous obtenons est comprimé comme environ 200 BOPS. Nous le chargeons dans nos camions et l'apportons à nos clients.
La suppression des subventions qui a fait grimper à plus de 100% le prix du litre de carburant a obligé de nombreux Nigériens à avoir recours au gaz de cuisine pour alimenter leurs générateurs. Cette invention a augmenté la demande du GPL sur le marché et suscite des inquiétudes pour certains à cause des risques d'incendie si la prudence n'est pas appliquée lors de l'utilisation du gaz très inflammable comme combustible.
Oui, des gens font cela ces derniers temps. Je dois dire que c'est assez innovant, mais nous devons également examiner les risques encourus. Je ne pense pas que quiconque ait pris son temps pour effectuer des recherches sur l'impact du gaz pour alimenter votre générateur. Si vous regardez les preuves de près, nous savons tous à quel point le gaz peut être inflammable.
Il y a de nombreux inconvénients en raison des risques liés à l'aspect du gaz. Beaucoup d'entre nous connaissent les incidents impliquant des explosions du gaz au Nigeria. C'est dû à un manque de coordination adéquat. Je conseille donc aux gens de continuer à utiliser du diesel au lieu du gaz.
Pour le 7 mois de juin dernier, Philippe Aubin a eu plus de 10 000 demandes pour sa technique d'utilisation du gaz naturel de cuisine qui coûte moins cher pour faire fonctionner un groupe électrogène. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, les autorités veulent un développement équitable de toutes les régions du pays. 30 experts nationaux et internationaux viennent d'élaborer un document dénommé « Schéma national d'aménagement et du développement durable » avec l'objectif de pallier les inégalités sur l'ensemble du territoire national. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
L'option du gouvernement est d'implémenter désormais le développement intégré au Cameroun afin d'éliminer les exclusions, les disparités et la persistance des déséquilibres entre les 10 régions du pays. Guy Debok Gemning, directeur de l'aménagement et de la mise en valeur des zones frontalières au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Le schéma national d'aménagement et développement du territoire nous permet d'avoir cette connaissance appropriée du territoire national à travers le diagnostic territorial qui a été fait. Sur la base de cette connaissance, les politiques de développement seront bien entendu élaborées en cohérence avec les caractéristiques de chacune des parcelles du territoire pour une planification temporelle et spatiale des infrastructures, des équipements, des projets de développement, tout en évitant des chevauchements, des duplications.
Plusieurs experts, à l'instar des urbanistes, ont contribué à l'élaboration du schéma national d'aménagement et du territoire durable du Cameroun. Viviane Mfor, vice-présidente de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun.
Cet instrument va également servir à orienter les collectivités, surtout les collectivités, dans la mise en place de leur plan d'urbanisme et de développement. Donc, les urbanistes auront un rôle très important à jouer pour accompagner les collectivités à s'approprier ce document-là.
L'expertise internationale a été également sollicitée par les autorités camerounaises qui souhaitent ainsi améliorer la préservation du territoire rural et la planification du développement urbain. Rémélie Bouchemar, chef du projet.
Un pays qui se dote d'un SNAP, c'est un pays qui veut travailler autrement, compléter son dispositif jusque-là éminemment sectoriel par un dispositif spatial qui équilibre la vision afin que le développement soit le plus harmonisé possible.
Parmi les régions du Cameroun qui vont bénéficier du développement rationnel du territoire, il y a celle de l'extrême nord, frontalière au Nigeria. Daniel Kalbassou, président du conseil régional de l'extrême nord.
La région de l'extrême nord produit 69% du riz produit au Cameroun, 700 000 tonnes. Actuellement, il y a un projet pour porter ça à 600 000 tonnes. Si je prends le 1000, on produit en moyenne 700 000 tonnes par an. On produit 35 à 40% d'arachide produit au Cameroun. Vous savez, avec l'arachide, si on la transforme, on produit l'huile. Et le tuto aussi, c'est un élément essentiel. Nous produisons à peu près combien de tonnes? Dans la zone de Mogodé seulement, ils produisent 4000 tonnes de soja. Ce sont les sociétés de Douala qui viennent acheter pour transformer, sinon ça va au Nigeria.
Le Cameroun veut atteindre le stade de pays émergent d'ici 2035. À cet effet, le pays doit faire d'ici là certains types d'investissements pour un développement harmonisé de son territoire. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Et puis depuis mardi, un sommet des affaires Afrique-États-Unis se tient à Gaborone au Botswana et va durer 4 jours. Cette initiative est organisée par le Corporate Council on Africa, une organisation à but non lucratif basée à Washington. Le sommet a pour thème l'amélioration de la valeur de l'Afrique au sein des chaînes de valeur mondiales. Plus de 1300 personnes, dont 9 chefs d'État africains, participent à ce sommet. Eric Manirakiza a joint à Gaborone l'ancien ambassadeur du Bénin à Washington, Omar Haruna.
L'intérêt de ce sommet, c'est ça s'appuie sur le secteur privé essentiellement et c'est beaucoup plus pratique dans le sens où on parle de finances, on parle de deals, on parle de projets, on parle de financement de projets, on parle d'exécution de projets. Donc c'est alors que le sommet qui a eu lieu à Washington, c'est le sommet des leaders africains et américains. Donc c'est un sommet de chefs d'État. Celui-ci, c'est même s'il y a beaucoup de chefs d'État, c'est plus un sommet de chefs d'entreprise, de ceux qui sont dans la pratique de créer la richesse.
Y a-t-il des engagements clairs qui profiteraient à l'Afrique?
On sait déjà qu'il y a des engagements qui viennent et ces engagements, au fait, par exemple, viennent du fait que le sommet des leaders, par exemple, qui a eu lieu à Washington, avait pris des engagements. Et ces engagements sont en train d'être déroulés en ce moment. Je peux déjà vous dire qu'au niveau du sommet des leaders, il y avait à peu près 15 milliards de dollars qui avaient été alloués. Maintenant, cette enveloppe a été augmentée jusqu'à 16 milliards de dollars, ou plus de 16 milliards de dollars. Et il y a des deals qui ont été effectué, par exemple, 250 millions de deals qu'il y a eu entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Il y a, par exemple, le Ghana qui est dans un deal de 300 millions, par exemple. Il y a un autre deal de 900 millions de dollars en Angola. Donc, ce sommet-ci est en train de concrétiser tout ça là.
Alors, il y a la question de la Goa. Il est prévu une session spéciale. Qu'est-ce que vous allez discuter exactement?
Bon, évidemment, la Goa, c'est une politique déjà qui est une politique acquise d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce qu'on va discuter de la Goa, c'est comment est-ce qu'il faut améliorer la Goa. Dans le contexte de la thématique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la contribution de l'Afrique dans l'échelle de valeur mondiale, donc la Goa a sa place et c'est de ça qu'on va discuter. On va discuter du renouvellement de la Goa, évidemment. On va discuter peut-être même du fait qu'on pourrait pérenniser la Goa. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en discutera.
Qui sont les participants à ce sommet?
Ceux qui participent à ce sommet, ce sont des chefs d'entreprise africains, des chefs d'entreprise américains, des responsables de gouvernementaux de haut niveau et toutes les parties prenantes des relations entre l'Afrique et les États-Unis et pour discuter des opportunités et des défis liés au commerce et à l'investissement en Afrique. En nombre, on a à peu près à ce moment 1300 participants, dont la fortune représente à peu près près de 3 trillions de dollars de chiffre d'affaires. Ça, c'est le nombre cumulé de fortunes qui sont ici à Gaborone pour le sommet Afrique-Amérique des affaires.
Joint à Gaborone, au Botswana, Omar Haruna, ancien ambassadeur du Bénin à Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute.